9, 8, 7, 6, 5.
Very happy to see you.
Nous sommes sur France Culture pour parler de dernières nouvelles de l'univers.
Okay, okay, go, go, came the trial.
Dernière nouvelle de l'univers, André Brahi.
Je vous propose aujourd'hui de parler du futur. Alors, vous êtes surpris, puisque en général, quand on fait de la science, on parle du passé. Quelles sont nos origines, comment tout cela a-t-il commencé, comment a-t-on trouvé les lois de la physique, etc. Mais la question que je vous propose de nous poser, c'est est-ce que tout ce que nous avons appris sur le passé peut nous donner quelques informations sur le futur ? D'autant plus qu'il y a souvent une tendance à la tristesse dans l'espèce humaine et que siècle après siècle, on annonce toujours la catastrophe. Souvenez-vous au Moyen-Âge où certains pensaient à la catastrophe de l'an 1000, qui évidemment n'a pas eu lieu. Souvenez-vous il n'y a pas si longtemps, quand quelques farfelus nous annonçaient la catastrophe de l'an 2000, qui évidemment n'a pas eu lieu. Souvenez-vous il y a encore une période plus récente où certains prédisaient la fin de je ne sais quoi des hommes ou de la Terre, ce qui évidemment n'a pas eu lieu. Mais essayons de voir qu'est-ce qui va se passer sachant que l'homme est apparu sur Terre il y a relativement peu de temps. Donc nous ne saurions prétendre être là pour l'éternité. Probablement qu'un jour, sur Terre, l'homme n'y sera plus. Probablement qu'un jour, même sur Terre, la vie n'existera plus. Et puis, au-delà de probablement, la Terre elle-même a une durée de vie limitée. Et le Soleil, autour duquel nous tournons, a lui-même une durée de vie limitée, comme les étoiles en général. Autrement dit, la grande leçon de la science moderne, c'est l'évolution. Les objets, ils naissent, ils vivent, ils meurent. Mais il ne faut pas s'en désespérer, parce que c'est grâce au fait qu'un certain nombre d'objets meurent qu'une nouvelle vie apparaît. Alors, essayons de commenter tout cela, et je vous propose de traiter trois thèmes. Le premier, c'est qu'en est-il de la vie de l'homme d'une part et de la vie en général sur Terre ? Quel est son futur ? Le deuxième, c'est quel est le futur de la Terre et du Soleil, et plus généralement des étoiles ? Et enfin, le troisième, quel est le futur de l'univers ? Alors, si vous voulez que je résume tout cela, j'ai envie de vous dire que le futur est plutôt sombre, mais qu'on a le temps, puisqu'on raisonne en 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, etc. d'années. Alors, commençons par le futur de la vie et le futur de l'homme. Nous savons tous que la Terre a été formée il y a 455 milliards d'années, que la vie, sous sa forme la plus primitive, est apparue il y a 3,8 milliards d'années, et que l'homme lui-même vient de juste apparaître. Selon qu'on parle en termes d'Homo erectus, d'Homo sapiens, d'Homo habilis, etc. Là, on raisonne en quelques millions d'années. Mais l'homme moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a vraiment fait son apparition il y a en gros 200 000 ans. Ce qui n'est rien par rapport aux 1382 milliards d'années de l'univers et aux 455 milliards d'années du système solaire. Mais l'homme s'est développé à grande vitesse, puisque de quelques tribus, de quelques milliers de spécimens sur Terre au tout début, nous en sommes maintenant environ 7 milliards d'humains sur Terre. Alors, toute la science nous enseigne que toutes les espèces animales qui sont apparues sur Terre ont pratiquement toutes disparu. Donc, peut-il en être différemment de notre espèce ? Certains imaginent que nous aurions atteint la capacité d'être éternels, en quelque sorte. Je ne crois pas qu'il faille être si optimiste, mais en même temps, il ne faut pas être pessimiste du tout. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est quels sont les phénomènes qui pourraient arrêter notre civilisation, qui pourraient faire disparaître la vie. Et parmi ces phénomènes, il y a des phénomènes naturels, et d'autres sont des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire l'homme lui-même a-t-il la capacité de s'autodétruire. Alors, commençons par les phénomènes naturels. Si nous regardons l'histoire de la Terre sur des milliards d'années, on a le sentiment qu'il y a eu une série de catastrophes. Autrement dit, sans cesse, la Terre est bombardée par des astéroïdes, par des comètes, par des météores. Ce bombardement est continu. Et quand un corps est mort comme la Lune, il est criblé de cratères, qui sont les cicatrices et le témoignage du bombardement. Quand un corps comme la Terre est actif, et il y a de l'érosion, il y a de la géologie, il y a une atmosphère, eh bien, les cicatrices disparaissent assez rapidement. Mais le bombardement est le même. Et donc, finalement, ces phénomènes, dans le passé, ils continuent de nos jours. Les volcans peuvent être extrêmement, négatifs pour nous. Et puis, il y a d'autres phénomènes, je pense aux supernovae, je pense au soleil, etc. Donc, question de voir, l'une après l'autre, les catastrophes éventuelles. Et d'abord, je voudrais faire une mise en garde, à savoir ce que nous appelons catastrophe. Moi, j'ai envie de l'appeler un bienfait. Nous savons tous que les dinosaures ont disparu il y a environ 70 millions d'années. Certains attribuent cette disparition à un astéroïde qui est arrivé, qui a heurté la Terre, qui a soulevé un nuage de poussière, qui a freiné l'échange d'énergie entre le Soleil et le sol terrestre, et qui finalement a fait un changement climatique qui fait que les dinosaures n'avaient plus à manger. Ceux qui étaient carnivores n'avaient plus de proies, et les proies qui étaient herbivores n'avaient plus de plantes, etc. Et ils ont disparu. Ben, cette catastrophe aux dinosaures est un bienfait pour l'homme, parce que sans cela, le petit animal de quelques centimètres de dimension à l'époque qui a survécu, on ne sait trop comment, qui a donné naissance ensuite à l'homme et à ce que nous sommes, n'aurait jamais pu se développer sans cette catastrophe. Autrement dit, l'histoire de la Terre est une série de catastrophes grâce auxquelles nous sommes ici, nous sommes en place. Alors, essayons de les examiner. Alors, tout d'abord, je parlerai de la chute des astéroïdes et du bombardement. C'est le phénomène géologique le plus majeur, le plus important du système solaire. Je vous ai déjà raconté comment s'étaient formées les planètes, à savoir que des corps tournent autour de l'étoile Soleil, que ces corps se cognent les uns les autres, et quand ils se cognent à grande vitesse, ils se cassent, et quand ils se cognent à faible vitesse, ils se rassemblent. Et j'appellerais ça une succession de divorces et de mariages, et cette succession de divorces et de mariages ont donné la Terre que nous connaissons. Et donc tous ces petits corps qui se cognent les uns les autres ont formé les planètes que nous connaissons, mais un petit peu comme un maçon qui construit une maison, qui apporte des briques ou des pierres pour monter la maison. Et une fois que la maison est montée, il est un peu négligent, il n'aurait pas nettoyé le chantier. Il reste dans le chantier des briques et des pierres, qui sont tous ces corps, qui sont de la matière première à former des planètes, mais qui n'ont pas été utilisés pour former les planètes que nous connaissons. Autrement dit, ce bombardement, grâce auquel les planètes ont été formées, il continue de nos jours. Alors, à l'échelle de la vie d'un homme, c'est rien. À l'échelle de la Terre, c'est permanent. Alors, que risquons-nous vraiment ? Alors, jusqu'à présent, la catastrophe pouvait arriver à n'importe quel moment. Si un corps de quelques 50-60 mètres heurte la Terre, ça fait un cratère d'environ 1 km 200, avec des retombées secondaires, jusqu'à 200 km. Ceci s'est passé il y a environ 50 000 ans, en Arizona. Le cratère s'appelle le Meteor Cratère, avec des retombées secondaires dans les centaines de kilomètres aux alentours. Ce qui veut dire que si demain, un corps de 60 mètres frappait la ville de Paris, eh bien, ça ferait un cratère d'un kilomètre 200, autrement dit, tout serait détruit dans ce cratère, mais il y aurait des destructions majeures dans les 200 kilomètres aux alentours, c'est-à-dire que Rouen, Reims, Orléans, Auxerre, Senlis, Compiègne, etc., seraient durement touchés. Ce n'est pas une disparition des hommes, ce n'est pas une disparition de la Terre, mais c'est une catastrophe importante pour les gens qui sont à cet endroit-là. Maintenant, si un corps est plus gros, c'est-à-dire s'il fait quelques kilomètres de dimension, là, c'est un grand nombre d'espèces qui disparaissent. Et nous avons maintenant la preuve que depuis les milliards d'années que la vie est apparue sur Terre, il y a eu 6 extinctions majeures. Extinction majeure, ça veut dire qu'il y a des moments où 90% des espèces animales ont disparu à la suite d'une catastrophe. Autrement dit, un tel événement peut arriver. Seulement, la différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, les hommes sont capables d'observer ces astéroïdes. Ils sont capables d'en calculer la trajectoire, et nous savons si un corps d'une grande taille ça veut dire d'un kilomètre ou plus gros, est susceptible d'heurter la Terre un jour ou l'autre. Imaginons qu'on découvre un tel corps. Alors, tout de suite, je veux vous rassurer. Dans l'immédiat, nous ne risquons pas un bombardement par un corps de plusieurs kilomètres de dimension. Nous avons fait l'inventaire de tous ces corps. Nous savons comment ils se déplacent. Aucun d'entre eux ne heurtera la Terre dans les siècles qui vont venir. Peut-être dans les millénaires, millions d'années, mais là, on a le temps de réagir. Alors, nous avons fait l'inventaire. Nous avons la trajectoire des corps. Et supposons que demain, on découvre un qui pourrait heurter la Terre en, je ne sais pas, moi, en 2040, 2050, 2070. Eh bien, on a inventé des moyens de s'en protéger. Comment faire ? Il ne s'agit pas de mettre un filet de protection, parce qu'un tel corps, il arrive à 20 km par seconde, à une telle vitesse, il détruirait tout. Mais simplement, il faut faire de la même manière qu'avec quelqu'un qui tirerait sur vous avec un fusil. Si vous essayez d'attraper la balle de fusil au vol, ça c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, si au moment où le tireur pointe son fusil, vous déviez son fusil de quelques millimètres, eh bien, la balle va taper à côté. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Au moment où le corps est loin de nous, eh bien, il serait bon à ce moment-là de le dévier. Alors, on peut le dévier violemment, en lançant je ne sais quelle bombe à neutrons, bombe atomique, etc. On peut aussi le dévier doucement, en le recouvrant d'une surface réfléchissante qui ferait un flux de grains de lumière dans du soleil, un flux de photons dans du soleil, et qui exercerait une force sur ce corps et le dévierait très légèrement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques que nous pourrions utiliser, mais je veux simplement vous dire que l'humanité a atteint un moment où elle peut se protéger d'une chute mortelle pour elle et pour sa civilisation. Autrement dit, les chutes d'astéroïdes vont continuer. De temps en temps, nous savons par exemple qu'à l'hiver 2013, en Sibérie, est arrivé un météore qui était très spectaculaire. Il a brisé des vitres. Il y a eu quelques personnes très légèrement blessées par des éclats de verre, etc. Il n'a tué personne. Mais ce bombardement continue. Il faut prendre conscience du fait que chaque jour, des milliers de tonnes de matériaux tombent sur Terre. Mais nous sommes protégés par l'atmosphère, puisque ces corps arrivant à grande vitesse frottent sur l'atmosphère. En frottant, ils chauffent. En chauffant, ils sont désintégrés, en quelque sorte, et ils n'atteignent jamais la surface. Et de temps en temps, un corps atteint la surface, mais la surface du globe, elle est couverte aux deux tiers d'océan. Et quand c'est un sol solide, il y a des déserts, il y a des montagnes, il y a des zones inhabitées. Autrement dit, les zones habitées n'occupent qu'une petite partie. Et pour l'instant, dans les temps historiques, personne, aucun être humain n'a été tué par une météorite. Aucun témoignage de cela n'existe, même s'il y a des chutes quelquefois qui sont spectaculaires. Alors, autre phénomène plus difficile à maîtriser, c'est un volcan. Vous savez que les dinosaures ont disparu, pour certains, à cause d'un bombardement météorite, pour d'autres, à cause d'un volcanisme intense qui avait lieu dans le Deccan, qui est une province des Indes. On parle des trappes du Deccan. Trappe, c'est un mot suédois qui veut dire une marche, qui sont les marches successives des laves qui sont accumulées avec des volcans beaucoup plus énergétiques, beaucoup plus considérables que ce que nous connaissons de nos jours. Et d'ailleurs, ce volcanisme intense a donné naissance aux îles Maldives, aux Seychelles et continue à l'île de la Réunion. C'est un point chaud près du noyau de la Terre qui émet un matériau qui monte à la surface et qui a créé ce volcanisme. La dérive des continents fait que ça se déplace apparemment à la surface de la Terre. Alors un volcanisme intense peut avoir le même effet qu'un bombardement d'un gros astéroïde, c'est-à-dire qu'il va envoyer dans l'espace des poussières importantes, que ces poussières vont faire un obstacle entre la lumière du soleil et nous-mêmes, que les plantes vont moins bien pousser, que les herbivores ne vont plus manger des plantes et que la chaîne alimentaire va être interrompue. Et ce volcanisme intense a existé dans le passé, à plusieurs reprises, nous en avons la preuve. Par contre, dans le futur, la Terre va vers, comment dirais-je, une certaine mort géologique, en quelque sorte. Nous ne pensons pas qu'un tel phénomène puisse exister, mais il pourrait se reproduire et il poserait un problème sérieux pour nous, parce que ce n'est pas uniquement un phénomène local. Dans ce cas-là, on peut se déplacer. Mais c'est un phénomène global qui recouvre l'ensemble de la Terre d'un nuage. Alors, autre phénomène que nous avons observé, c'est le climat. Parce que quand vous allez en Dordogne, eh bien vous trouvez dans des temps préhistoriques qu'il y a eu des mammouths et qu'il y a eu des lions. Or, ces animaux ne vivent pas en même temps. Les uns vivent dans les glaces et les autres vivent dans des endroits tropicaux. Autrement dit, le climat a changé sans cesse. Pourquoi le climat a-t-il changé sur Terre? Eh bien, au moins pour deux raisons. D'une part, le soleil, l'activité du soleil qui est sans arrêt en train de changer, fait que se sont succédées sur Terre des périodes de glaciation et des périodes, au contraire, beaucoup plus chaudes. Il n'y a pas si longtemps, les glaces recouvraient ce qui est maintenant l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Et puis, ces périodes arrivent sans arrêt. À une période de glaciation succède une période chaude, qui elle-même est suivie par une période de glaciation. Et l'autre phénomène qui joue, c'est l'influence de Jupiter et Saturne, les planètes, qui, en faisant basculer l'axe de rotation de la Terre, changent le rythme des saisons. Autrement dit, une saison est d'autant plus accentuée que l'axe est plus incliné. Heureusement pour nous, nous avons la Lune qui tourne autour de nous, qui stabilise un petit peu l'axe de rotation, de la même manière qu'un funambule qui traverse sur un fil et un grand balancier. Enlevez donc le balancier du funambule, il tombe au fond de la falaise ou au fond du ravin qu'il est en train de franchir. Eh bien, cette Lune nous stabilise un petit peu, mais malgré ce, il y a quelques variations qui ont lieu. Donc, l'influence des planètes d'une part et l'influence du Soleil d'autre part peuvent influer sur le climat, ont influé sans cesse depuis la création de la Terre sur le climat. Et là aussi, une glaciation intense ou un réchauffement intense peuvent poser de gros problèmes aux hommes. Ça ne ferait pas disparaître les hommes de la Terre, mais ça affecterait profondément notre civilisation. Une autre catastrophe qu'on peut envisager, c'est ce qu'on appelle une supernova. Qu'est-ce que c'est qu'une supernova? C'est une étoile qui, en fin de vie, explose. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'étoiles. Il y a les étoiles massives qui fabriquent des atomes en leur sein, qui fabriquent tous les atomes, comme le carbone, comme l'oxygène, comme l'azote, comme le chlore, comme l'aluminium, etc., jusqu'au fer. Et arrivé au fer, on ne peut pas aller plus loin. L'étoile implose et en implosant rebondit. Un petit peu comme si vous donnez un coup de marteau sur un tube cathodique, ces anciens postes de télévision, eh bien, le poste implose, mais envoie des débris de verre dans toute la pièce parce que tous ces débris rebondissent les uns sur les autres. Donc une étoile qui implose, finalement, conduit à une explosion. Et si jamais dans le trajet du Soleil autour du centre de la galaxie, la Terre rencontrait une telle supernova, ça serait très ennuyeux pour nous. C'est un petit peu comme nous placer à Tchernobyl au moment où la centrale nucléaire explose. Se protéger d'un tel phénomène serait bien délicat. Mais heureusement pour nous, toutes les zones que nous traversons, il n'y a pas d'étoiles susceptibles de devenir une supernova dans un temps proche. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans quelques millions d'années, mais dans l'immédiat, dans les millénaires qui suivent, nous ne risquons rien. Mais enfin, ça peut être une telle catastrophe. Enfin, en même temps, on pourrait imaginer des orages solaires très importants. Un tel orage, nous sommes protégés par la magnétosphère de la Terre, c'est-à-dire qui est créée par le champ magnétique de la Terre, mais un tel orage pourrait avoir des conséquences néfastes. Nous savons tous, à une échelle beaucoup plus restreinte, qu'en 1989, un orage solaire a, coupé la fourniture d'électricité au Québec. Ça a eu des conséquences non seulement au Canada, mais surtout les États-Unis. Entre parenthèses, ces nuits noires ont fait que 9 mois plus tard, il y a eu une recrudescence des naissances. Donc ça, c'est l'effet était plutôt bénéfique. Mais disons, ces orages solaires peuvent avoir lieu. Enfin, il peut exister des pandémies importantes. Un virus peut se développer et puis nous envahir. Et nous pouvons avoir de la peine à résister à tout cela. Autrement dit, voyez, chute d'astéroïdes, volcans, climat, supernovae, orages solaires, pandémie. Voilà beaucoup de phénomènes susceptibles de nous affecter. Mais il n'y a pas de danger immédiat. Ceci a existé de tout temps. Et malgré ce, les espèces sont évoluées, sont apparues, l'homme est apparu. En même temps, on peut se demander si l'homme est capable de s'autodétruire. Autrement dit, est-ce que les civilisations, quand elles ont atteint une technologie suffisante, sommes-nous assez déraisonnables pour s'autodétruire ? Autrement dit, pourrions-nous imaginer une expérience de physique qui tourne mal ? Pourrions-nous lancer tellement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le changement climatique serait épouvantable ? Pourrions-nous déclencher une guerre apocalyptique ? Pourrions-nous inventer des armes biologiques qui détruiraient tout le monde ? Vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait que la Première Guerre mondiale avait été chimique. On a lancé des gaz moutarde, gaz sarin, chose épouvantable qu'on a interdit, ce qui n'a pas empêché aux États de continuer à fabriquer. Que la Deuxième Guerre mondiale était atomique, on a lancé l'atome. Einstein disait, je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la Quatrième aura lieu avec des pierres et des bâtons. Autrement dit, l'homme peut être assez fou pour totalement s'autodétruire. Là, nous ne sommes plus dans le domaine de la science, nous sommes peut-être dans le domaine de la sociologie, et ce n'est pas ici que je vais le voir avec vous. Mais voyez bien que la vie sur Terre, elle est tout de même fragile, et ce que nous constatons, c'est que l'homme est le plus grand prédateur qui n'ait jamais existé sur Terre. Il ne se passe pas de mois, d'années, sans qu'un grand nombre d'espèces animales disparaissent à cause de notre frénésie d'industrialisation, notre frénésie de pollution, notre frénésie d'un comportement pas toujours raisonnable. Et donc, d'une certaine manière, pourrions-nous aller jusqu'à nous autodétruire ? Je n'en sais rien, mais ça pourrait exister. Mais je rappelle que science sans conscience n'a pas de raison d'être. Et donc, développer la science est important. Il faut développer la conscience. Et surtout, il ne faut pas renier la science, comme le font certains. C'est par la science que nous résoudrons les problèmes de la science. Autrement dit, le futur de l'homme, il est quand même plutôt, je serais plutôt très optimiste. Nous avons passé beaucoup d'épreuves très compliquées. Nous pourrions même détruire une partie de l'humanité, il suffit qu'il en reste un petit peu. Et à chaque extinction des espèces sur Terre, d'autres espèces sont apparues. Donc je crois qu'on peut être très optimiste. Voyons maintenant quel est le futur de la Terre elle-même et le futur du Soleil, et plus généralement le futur du Soleil et des étoiles. À nouveau, il faut être conscient du fait que tout dans l'univers évolue. Contrairement à ce que disait le philosophe Bergson, l'évolution n'est pas le propre de l'homme. Les planètes, les étoiles, les galaxies, l'univers lui-même naissent, vivent et meurent. Alors qu'en est-il dans ce qui concerne la Terre ? Eh bien, regardez, quand vous regardez la Terre et la Lune, La Terre est un corps vivant, géologiquement actif. Son noyau est chaud. De la chaleur est propagée de l'intérieur vers l'extérieur. Les continents se déplacent. Il y a des fractures, il y a des failles, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, c'est le signe de l'activité, alors que la Lune est morte. La Lune est criblée de cratères, il n'y a pas de dérive des continents, il n'y a pas de chaleur importante venant de l'intérieur. Mais le sort de la Terre, c'est effectivement de mourir un jour, du point de vue géologique, j'entends. C'est-à-dire que cette Terre, eh bien, va lentement se refroidir, elle évacue sa chaleur interne vers l'extérieur, jusqu'au jour où elle n'aura plus rien à évacuer, en quelque sorte. Alors, cela prend du temps. Je crois qu'on peut raisonner en milliards d'années, bien entendu. Mais nous voyons bien que tous ces phénomènes, qui pour certains peuvent faire catastrophiques, un volcan, un tremblement de terre, sont en fait des phénomènes qui permettent l'existence de la vie. D'une part, ce transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, correspondant à un déplacement des plaques et correspondant au fait que l'extérieur est alimenté, eh bien, apporte du matériau, de la matière première, qui a joué un rôle important pour l'apparition de la vie. D'autre part, les volcans, chacun le sait que si on est là au moment de l'explosion, ça ne va pas, mais ça va donner demain un territoire qui sera fertile. Et beaucoup d'hommes s'établissent au pied des volcans, etc. Autrement dit, comprenons le fait, la Terre elle-même est condamnée à devenir un astre froid et inerte, mais dans très longtemps. Probablement bien après que l'homme ait disparu de la Terre. Alors, d'autre part, les continents dérivent. Nous savons tous qu'il y a environ 250 millions d'années, eh bien, il y avait un immense continent sur Terre qu'on appelait la Pangée, et qu'ensuite, cet immense continent s'est fragmenté en différents morceaux qui donnent maintenant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, etc. Mais ce mouvement des plaques terrestres sur lesquelles sont les continents continue, et dans quelques centaines de millions d'années, à nouveau, nous aurons un continent unique. Par exemple, en ce moment, l'Afrique est en train de pousser sur l'Europe, la Méditerranée est en train de se refermer sur elle-même. L'Amérique est en train de s'éloigner de l'Europe en ce moment, mais se rapprochera dans le futur. Et nous aurons à la fois, finalement, un continent unique, mais où les conditions ne seront pas très agréables. Il y aura beaucoup de zones polaires, il y aura des déserts plus ou moins arides. Ça sera beaucoup moins agréable que ce que nous connaissons pour l'instant. Mais là, c'est dans quelques centaines de millions d'années, on a le temps de voir venir. Sachez simplement pour l'instant que l'Europe occidentale, poussée qu'elle est par l'Afrique, la Méditerranée qui se referme, est telle que, par exemple, la France va se retrouver au-delà du cercle arctique. Hein. Souvent, en plaisantant, je présente une photographie de ce que sera la France à cette époque. Et je dis, si vous voulez acheter une maison dans le coin, dites au vendeur que les conditions vont se dégrader et qu'il a intérêt à vendre rapidement à un bon prix. Hein. Alors, vous barrez évidemment 250 millions d'années. Donc, mais voyez, tout ça veut dire que ça évolue, disons, donc en permanence. Alors maintenant, nous savons que le Soleil lui-même évolue, et je vais vous en parler dans quelques instants, mais au-delà de ça, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup de livres, la chaleur du Soleil n'est pas constante. Elle est constante en gros, mais le Soleil, en fait, est de plus en plus chaud. Pour une raison très simple, au centre du Soleil, 4 atomes d'hydrogène donnent un atome d'hélium. Eh bien, 4 atomes d'hydrogène occupent un volume plus grand qu'un seul atome d'hélium, et donc au cours du temps, quand l'hydrogène se transforme en hélium, eh bien, le volume diminue, la densité augmente, la pression augmente, la température augmente, et cette chaleur interne est transférée à l'extérieur et vous donne la chaleur du Soleil dont nous profitons. Mais il faut savoir qu'il y a 3,8 milliards d'années, au moment même où la vie est paraissée sur Terre, le Soleil était 30% plus froid. Et donc, petit à petit, ça se réchauffe tout doucement, mais ça se réchauffe. Et donc, la vie a dû s'adapter de cela au cours de son évolution, au cours des années, et elle donne ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette chaleur, ça va continuer. Ce qui veut dire que dans le futur, alors on peut discuter sur la date exacte, s'agit-il d'un milliard d'années, s'agit-il d'un peu plus, différents modèles vont devenir différentes réponses. Mais dans le futur, cela veut dire que sur Terre, il fera beaucoup plus chaud. Il fera même tellement chaud que l'eau liquide ne pourra plus exister. Et donc les océans, les lacs, les rivières vont s'évaporer et la Terre va être entourée de vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle provoque un effet de serre considérable. Nous sommes inquiets de l'effet de serre provoqué par le dioxyde de carbone, mais ce n'est rien comparé à ce que fait la vapeur d'eau. Et donc, quand les océans seront évaporés, l'effet de serre sera énorme et la chaleur va encore plus augmenter. Autrement dit, l'absence d'eau liquide, des conditions de chaleur absolument extrêmes, vont faire que probablement la vie va disparaître à la surface de la Terre, dans un peu plus d'un milliard d'années. Alors est-ce que des organismes extrémophiles, eux, pourront résister ou pas ? Bon, la question est ouverte. Mais vous voyez bien que les conditions telles qu'elles existent sur Terre ne sont plus les mêmes. Et je m'amuse quelquefois dans une conférence, montrer une photographie de n'importe quelle ville, prenons Paris par exemple, et la photographie de la même ville, un milliard d'années plus tard, où c'est en fait un désert, parfaitement inhospitalier. Mais là aussi, un milliard d'années, ne vous effrayez pas, ça vous donne le temps de réagir. Entre parenthèses, je ne voudrais pas qu'en écoutant cette émission, vous ayez une dépression profonde, puisque je suis en train de vous dire que dans un milliard d'années, il n'y aura plus de vie sur Terre, alors que la vie a démarré il y a 3,8 milliards d'années. Autrement dit, je suis en train de vous dire que sur Terre, la vie est plus proche de la fin que du début. Alors, ne nous désespérons pas à une telle nouvelle, d'une part parce qu'un milliard d'années nous donne le temps de nous retourner, et d'autre part parce que nous avons le temps de déménager. Il suffira simplement de s'adresser à une entreprise de déménagement ayant de bonnes références pour aller dans un endroit sympathique dans l'univers. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire et que je le répéterai, il y a beaucoup d'endroits sympathiques dans l'univers. Mais voyez bien que notre futur, si jamais on était là encore, revient à déménager un jour ou l'autre. Nous ne saurions être là pour tout le temps. Après tout, la Terre a été le berceau de l'humanité et un bébé n'est pas forcément condamné à vivre toute sa vie dans le même berceau. Alors maintenant, continuons l'histoire. La Terre va continuer à tourner autour du Soleil, mais le Soleil lui-même, un jour, il aura épuisé tout l'hydrogène qu'il avait en son centre pour se transformer en hélium. Donc vous aurez un Soleil qui, au centre duquel, il y aura de l'hélium. Bon, ce Soleil, à ce moment-là, les réactions thermonucléaires de l'hydrogène vont cesser, donc il y aura moins d'énergie du centre, le Soleil va avoir tendance à se contracter un petit peu plus. En se contractant, la pression, la température, la densité centrale vont augmenter et vont s'allumer d'autres réactions thermonucléaires. Et l'hélium va se transformer en carbone, et puis etc. Autrement dit, les atomes, chacun se transforme par une série de réactions thermonucléaires en atomes un petit peu plus lourds, en quelque sorte. Donc une réaction thermonucléaire plus puissante a lieu, en quelque sorte, et à cette réaction thermonucléaire plus puissante va correspondre un Soleil plus gros. Autrement dit, le Soleil passera par un stade par lequel la plupart des étoiles passent au cours de leur vie, il deviendra ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Autrement dit, le Soleil, qui actuellement a une atmosphère qui a une température d'environ 5700 à 6000 degrés, c'est ces grains de lumière venant du Soleil qui nous réchauffent et qui nous donnent la lumière et la chaleur, eh bien, il deviendra une étoile beaucoup plus grosse. La température de l'atmosphère sera un peu plus basse, c'est environ 3000 degrés, mais beaucoup plus proche. Et le rayon du Soleil, à ce moment-là, sera très légèrement supérieur à la distance de la Terre au Soleil. Autrement dit, tout semble indiquer que le Soleil, en grossissant, va absorber la Terre. La Terre va tomber dans un milieu à 3000 degrés. 3000 degrés, le métal fond, tout fond. Et la Terre, c'est un grain de poussière par rapport au Soleil. Je vous rappelle que sa masse, elle est 1 million de fois inférieure à celle du Soleil. Donc le Soleil, c'est à peine comme s'il avalait un zakouski. Il ne s'en rendra même pas compte. C'est un grain de poussière qui va tomber dans lui-même. Alors en fait, nous pouvons discuter sur le fait que la Terre sera absorbée ou non. Parce qu'en même temps que le Soleil grossit, il perd de la masse. Et en perdant de la masse, il attire un peu moins la Terre. Et donc, du coup, la Terre recule un petit peu par rapport au Soleil. Autrement dit, il est probable qu'en fait, nous ne serons pas absorbés par le Soleil, mais nous serons à la limite. Donc, à la question « serons-nous grillés ou rôtis ?», je vous répondrai « on sera plutôt grillés que rôtis ». Mais enfin, de toute manière, le sort ne sera pas très enviable, puisque sur Terre, la température sera de l'ordre de 1500 à 2000 degrés, et que le ciel sera couvert, pratiquement, les deux tiers du ciel seront couverts d'un mur de chaleur de 3000 degrés, qui sera ce Soleil qui sera presque à la limite, en quelque sorte, très proche de nous. Alors certains imaginent qu'on sera quand même absorbé parce que l'effet de marée de la Terre sur le Soleil créera un petit bourrelet qui du coup nous absorberont. D'autres disent non, ce bourrelet ne sera pas assez important. Ceci dépend de différents modèles que je crains que nous ne vérifions jamais puisque là je vous parle de ce qui se passera dans un temps de l'ordre de 6 à 7 milliards d'années. En d'autres termes, de toute manière, le Soleil devient une géante rouge. Alors la Terre, imaginons qu'elle soit absorbée, donc elle n'existe plus. Et c'est d'ailleurs paradoxal, parce qu'à ce moment-là, nous sommes nés grâce aux étoiles. Les atomes qui forment la Terre, qui nous forment nous-mêmes, qui forment les objets qui nous entourent, ont été créés par des étoiles. Autrement dit, ces étoiles qui nous ont créés, une autre étoile nous mangera. C'est à la fois notre naissance et notre mort. Ou bien, la Terre ne sera pas absorbée et restera. Mais alors à ce moment-là, ça sera un corps froid, n'émettant plus de la moindre chaleur, qui tournera autour d'un Soleil, qui lui-même, après avoir été une géante rouge, s'effondrera sur lui-même, et deviendra ce qu'on appelle une naine blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une naine blanche ? C'est une étoile dont la taille est à peu près égale à celle de la Terre, mais dont la masse est voisine de celle du Soleil. Autrement dit, vous avez toute la masse du Soleil concentrée dans un volume égal au volume de la Terre. Autrement dit, je vous rappelle que la Terre faisant 1 million de fois moins de masse que le Soleil, vous aurez dans le volume de la Terre 1 million de fois la masse de la Terre. Autrement dit, un corps extrêmement dense, où chaque cuillère à café de matière pèsera des milliards de tonnes. Hein. Et ce corps extrêmement dense s'appelle une naine blanche, qui par sa contraction et par ce qu'était son origine, c'est-à-dire un corps beaucoup plus chaud, va avoir au début une température de quelques milliers de degrés, mais va petit à petit se refroidir, va se refroidir lentement. Et une naine blanche, in fine, va vous donner une naine noire, c'est-à-dire un corps complètement obscur. Alors tout ça, il faut combien de temps pour tout ça? Eh bien, le Soleil, actuellement, pour une géante rouge, c'est de l'ordre, selon les modèles que l'on développe, d'en gros 6 milliards, entre 5 et 7, disons 6 milliards d'années. Pour que une géante, la stade géante rouge est assez rapide, donc dans 9-10 milliards d'années, le Soleil sera une naine blanche. Et là, au bout de 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards d'années, il va se refroidir petit à petit. Sa température va passer de, va descendre à 2000 degrés, à 1000 degrés, à 500 degrés, etc. Jusqu'à un corps complètement obscur, froid, se promenant dans un univers complètement noir. Et là, nous serons dans peut-être 25 ou 30 milliards d'années environ. Donc nous avons le temps. Mais nous savons que toutes les étoiles connaissent en quelque sorte le même sort. Alors, en général d'ailleurs, nous avons un ciel étoilé. Si j'allais beaucoup plus loin que la vie de ce Soleil que je viens de vous décrire, eh bien, ce ciel étoilé, un jour ou l'autre, disparaîtra. C'est-à-dire qu'en gros, que font les étoiles finalement? Les étoiles transforment l'hydrogène en leur centre en élément plus lourd. Alors, les étoiles les plus massives transforment tous les éléments jusqu'au fer, et quand elles explosent, il y a un flux de neutrons qui apparaît, et les éléments au-delà du fer, je pense en particulier à l'or, aux platines, à l'uranium, etc., sont fabriqués dans ce moment d'explosion de l'étoile. Autrement dit, vous comprenez qu'on fabrique l'hydrogène et l'hélium au tout début, au moment où la matière commence à apparaître, au début de l'expansion de l'univers. On fabrique tous les éléments qui vont en gros de l'hélium jusqu'au fer, dans l'usine étoile en quelque sorte, et on fabrique tous les éléments au-delà du fer jusqu'à l'uranium au moment de l'explosion de l'étoile. Donc ces trois manières de former des atomes par les étoiles on existe sans arrêt, mais il y a un jour où tous les éléments sont fabriqués. Une étoile en explosant renvoie dans l'espace l'ensemble du matériau qu'elle a fabriqué, et donc donne de la matière première pour la nouvelle génération d'étoiles. Donc génération après génération, chaque étoile augmente la composition de l'univers en atomes de plus en plus lourds. Et d'ailleurs, au passage, nous voyons que pour faire apparaître la Terre, pour faire apparaître la vie, il a fallu d'une part des étoiles et d'autre part du temps. C'est pour ça que je répète tout le temps que nous sommes les enfants du temps et les enfants des étoiles nous ont fait apparaître. Et en même temps, ces étoiles, nous avons besoin des grosses étoiles, les plus massives qui fabriquent nos atomes et qui les dispersent surtout dans l'espace. Et les petites étoiles comme le Soleil, elles ne dispersent pas les atomes qu'elles ont fabriqués, ou très peu en tout cas, mais par contre nous apportent une chaleur constante. On a besoin d'un four en quelque sorte, on a besoin d'une lumière, on a besoin de quelque chose qui dure longtemps. Et une grosse étoile, une étoile massive, elle va durer quelques dizaines de millions d'années, ce qui est notoirement insuffisant pour que la vie apparaisse et pour que tout ce que nous connaissons sur Terre puisse apparaître. Donc on a besoin de deux types d'étoiles, les grosses qui vivent bien mais ça dure pas longtemps, et les petites qui vivent chichement, qui font des économies, ça dure très longtemps. Elles s'ennuient beaucoup mais ça dure très longtemps. Autrement dit, grâce aux grosses, nous sommes ce que nous sommes en composition, grâce aux petites, nous avons la chaleur qui nous permet de vivre, mais tout ça ne dure qu'un certain temps. Donc les étoiles les plus massives finissent sous forme d'étoiles à neutrons quand elles ont explosé au centre, et même les encore plus massives, la partie qui reste au centre finit sous forme de trou noir. Un trou noir, c'est tout simplement un endroit où il y a beaucoup de matière dans un volume très petit. Et donc la vitesse d'évasion d'un tel objet est telle qu'elle est supérieure à sa lumière. Donc rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Mais ce trou noir, invisible, évidemment, il mange, il absorbe tout ce qui passe à son voisinage. Donc dès que ce trou noir qui se déplace dans la galaxie en tournant autour du centre, comme tous les corps de la galaxie d'ailleurs, si jamais il rencontre de la matière, il l'absorbe. Et quand il l'absorbe, la matière tombe violemment dans ce trou noir. Elle ne tombe pas directement, un petit peu comme quand vous prenez une douche chez vous, l'eau de la douche ne tombe pas directement dans la bonde. Elle tourne autour de la bonde avant de tomber. Eh bien, la matière tourne autour du trou noir avant de tomber. En tournant, elle frotte, en frottant, elle chauffe, et en chauffant, elle émet de la lumière. Donc on observe le repas du trou noir, en quelque sorte, qui a une signature très caractéristique. Et chacun sait que de la manière dont quelqu'un se comporte à table, nous avons beaucoup d'informations sur son caractère et son comportement. Et donc c'est comme ça que nous observons, que nous connaissons ces trous noirs. Vous voyez donc qu'il y a trois manières de terminer sa vie pour une étoile. Quand elle est petite et qu'elle a apporté beaucoup de chaleur pendant longtemps, c'est une naine blanche qui devient une naine noire. Quand elle est plus grosse et qu'elle a fabriqué plein d'atomes dans sa vie, c'est soit une étoile à neutrons, ce qui donne ces fameux pulsars dont je vous ai déjà parlé, qui sont des espèces de phares en rotation extrêmement rapides, soit un trou noir, qui donc sont ces corps qui nous paraissent bien mystérieux, parce que la physique à l'intérieur de notre corps, évidemment, n'est pas connue. Nos lois de physique sont capables de le décrire, puisqu'on ne simulera jamais un trou noir dans un laboratoire, ou alors, si vous fabriquez un trou noir dans un laboratoire, avant même d'avoir nommé le directeur, le laboratoire a explosé depuis longtemps. Donc nous sommes réduits à des spéculations, en quelque sorte. Et donc, vous voyez bien que nous tendons, en quelque sorte, vers un univers qui serait très noir quand toutes les étoiles auront épuisé leur vie. Mais alors là, si vous me donnez combien de temps ça se passera, nous raisonnons là, on ne peut même plus parler en milliards d'années, parce que ce sont des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'années. Autrement dit, nous parlons par des puissances de 10. C'est-à-dire qu'un milliard, vous savez, c'est 1 suivi de 9 zéros. Des milliards de milliards, c'est 1 suivi de 18 zéros. Donc là, je parle en 1 suivi de quelques 25 à 26 à 30 zéros, autrement dit un temps que même nos cerveaux ont de la peine à imaginer en quelque sorte. Mais nous voyons bien là aussi que tout ça a une fin, et là aussi quand on raisonne à telles échelles, parfaitement, je dirais, incomparable avec ce qu'est la brièveté d'une vie humaine, quand on raisonne à telles échelles, peut-être que la notion de temps doit être revue, peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Et en quelque sorte, vous voyez, la situation dans laquelle nous sommes, c'est que la vie d'un homme, même pas la vie d'un homme, la vie d'une civilisation, est tellement brève que nous voyons l'univers à un instant donné. Ça me rappelle, vous savez, ces photographies que l'on voit du début de l'histoire de la photographie. On voit une photographie prise dans une rue en 1880, en 1890. Vous voyez des voitures à chevaux, vous voyez des gens qui marchent, etc. À un instant donné, j'aurais envie, quand je vois ces photographies, qu'elles s'animent pour savoir où était le cheval juste avant et où il sera juste après. Et cette simple photographie me donne une information instantanée sur ce qu'était la situation en 1890, par exemple, mais ne me donne pas d'information sur ce qu'il y avait avant ou après. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes, nous, astronomes. Nous voyons l'univers à un instant donné, ce que nous observons en ce moment, et nous essayons d'extrapoler à ce qui s'est passé dans le passé, comment tout ceci a conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ce qui se passera dans le futur, c'est ce dont nous parlons à l'instant, et nous voyons que ce futur, même s'il paraît très sombre, il est très, très, très lointain. Nous en venons maintenant à la grande question. Quel est le futur de l'univers ? Mais avant d'aborder cette question, extrêmement spéculative, je vous propose de faire un petit peu le point. Où en sommes-nous ? Alors, nous avons d'abord compris que tout a démarré il y a environ 13,82 milliards d'années. Depuis le mois de mars 2013, je vous l'ai déjà dit, nous avions vieilli de 80 millions d'années. Ça m'a pris un coup de vieux, brutalement. Alors, la première question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il y avait un avant ? Est-ce que ceci est vraiment le démarrage de tout ? Alors, si on reste dans le cadre de la Société Générale, ce 13,82 milliards d'années, c'est le début du temps, le début de l'univers, etc. Et la question de l'avant n'a pas de sens. Maintenant, si on inventait une nouvelle physique pour décrire cet état extrêmement condensé de l'univers, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, peut-être un effondrement, un rebondissement, une pulsation, que sais-je. Donc, pour l'instant, ce progrès fantastique, en moins d'un siècle, nous sommes passés de quelques milliers d'années à quelques dizaines de milliards d'années sur l'histoire de l'univers. Alors, nous avons compris qu'une fois que l'univers commence sa vie, qu'une fois que les étoiles apparaissent, qu'une fois que les galaxies se forment, eh bien, ces étoiles fabriquent des atomes. Génération après génération, on fabrique des atomes de plus en plus lourds. Et il faut attendre un certain temps avant qu'apparaisse l'étoile Soleil et avant qu'apparaisse la Terre. Puisque cet univers de 13,82 milliards d'années, eh bien, le Soleil et la Terre n'apparaissent qu'il y a 4,55 milliards d'années. Donc déjà, je le répète, nous sommes les enfants des étoiles qui ont fabriqué nos atomes. Étoiles qui ne sont pas le Soleil, d'autres étoiles ont fabriqué nos atomes. Et nous sommes aussi les enfants du temps, puisqu'il a fallu beaucoup de temps. Mais quand la Terre apparaît il y a 4,55 milliards d'années, la vie n'apparaît pas tout de suite. Elle n'apparaît qu'il y a 3,8 milliards d'années. Et une fois que la vie est apparue, ça ne conduit pas à l'homme tout de suite. Il faut un certain temps pour voir apparaître les organismes plus complexes, mammifères, dinosaures, enfin, avant les mammifères, bien entendu. Et l'homme lui-même n'apparaît qu'il y a quelques millions d'années, et l'homme moderne, je vous l'ai déjà dit, il y a environ 200 000 ans. Nous savons que ce système solaire, eh bien, une espèce de nébulosité est apparue, au centre de laquelle l'étoile Soleil s'est formée en s'effondrant, et la périphérie de laquelle un disque est apparu, et dans ce disque, les collisions entre les différents corps ont conduit à la formation des planètes et de la Terre en particulier. Donc, finalement, nous voyons qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour faire apparaître la vie, beaucoup, beaucoup de temps pour faire apparaître un homme, et quand on parle du futur, je ne sais pas si nous sommes armés pour comprendre tout ce qui se passe après. Alors, nous avons vu aussi que les planètes ont une durée définie, elles se refroidissent lentement, finalement. Nous avons vu aussi que les étoiles ont une durée définie et que le Soleil mourra. Alors maintenant, posons-nous la question de savoir quel est le futur de notre galaxie, le futur des galaxies, et plus généralement, le futur de l'univers. Alors d'abord, nous venons de détecter, il y a une dizaine d'années, un trou noir central dans notre galaxie. Un immense trou noir. Je vous ai parlé des trous noirs fin de vie des étoiles, qui ont donc une masse correspondant à 2-3 fois la masse du Soleil. Mais nous avons maintenant compris qu'au centre des galaxies, au centre de la nôtre, au centre des autres galaxies, il y a d'immenses trous noirs. Immenses, c'est une histoire très massif. Dans des galaxies, nous observons à l'extérieur d'autres galaxies que la nôtre, nous avons trouvé des trous noirs dont la masse est de l'ordre de 100 à 200, jusqu'à 300 fois, 300 millions de fois la masse du Soleil. C'est considérable. Un tel trou noir a une dimension pratiquement égale à celle du système solaire. Comment l'avons-nous trouvé ? Eh bien, simplement, le centre de ces galaxies attire toute la matière au voisinage. Cette matière tombe violemment sur le noir central en spiralant autour de ce trou noir, en frottant extrêmement fort et émet des rayonnements en lumière gamma et en lumière X que nos satellites lancés autour de la Terre ont détecté. Et nous avons interprété ces observations comme la présence de trous noirs au sein des autres galaxies. Alors, la question s'est immédiatement posée, y a-t-il un trou noir au centre de notre galaxie ? Et évidemment, un trou noir, par définition, on ne le voit pas. En plus, la lumière visible est arrêtée par les poussières et le gaz qui s'interpose entre nous-mêmes et le centre de galaxie, qui, je vous le rappelle, est situé à environ 26 000 années-lumière de nous. Mais les astronomes sont très astucieux, ils ont réussi à le trouver. Comment ? En observant lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge de grande longueur d'onde passe à travers les poussières, en observant le comportement des étoiles autour du centre de la galaxie. Et en suivant le mouvement des étoiles en 1991, 92, 93, 94, 2000, 2003, 2004, etc., eh bien, nous avons trouvé que ces étoiles ont une trajectoire elliptique, comme les planètes autour du Soleil, en quelque sorte, autour du centre. Et nous avons, avec la période du mouvement de ces étoiles, trouvé la masse de l'objet central. Nous avons la dimension, évidemment, de cette zone centrale, qui est en deçà de l'orbite des étoiles. Et nous avons réalisé que la masse en question, dans un volume aussi petit, ne peut être qu'un trou noir. Et nous avons ainsi découvert qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir qui fait à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce qui est modeste par rapport aux trous noirs énormes qui sont au centre de certaines galaxies, mais ce qui est tout de même considérable par rapport à nos standards des étoiles, de la Terre et du système solaire. Donc ce trou noir central est au centre de la galaxie. Et finalement, nous comprenons que dans le futur, tout finit sous forme de trou noir, en quelque sorte. Les étoiles individuellement, et tout va tomber au centre de la galaxie. Mais en attendant, il se passe des phénomènes, à savoir que les galaxies qui se promènent dans l'espace, elles se rencontrent. Et elles rentrent en collision. Ah, vous allez me dire, mais c'est extraordinaire. Si deux galaxies rentrent en collision, c'est une catastrophe à cette échelle-là. Je vous rappelle qu'une galaxie fait un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. C'est le cas de notre galaxie, par exemple. Eh bien non, cette collision n'est pas si catastrophique que cela. Et d'ailleurs, nous allons en vivre une. Notre galaxie va rentrer prochainement en collision avec la galaxie d'Andromède, que je vous signale au passage, que l'on peut voir à l'œil nu. Et cette collision sera très spectaculaire, puisque quand elle aura lieu, nous verrons dans le ciel deux voies lactées. Et une telle collision, qu'est-ce qui se passe? Les galaxies sont faites de gaz essentiellement. Les étoiles sont très éloignées les unes des autres. L'étoile la plus proche du Soleil est à 4 années-lumière. Donc il y a beaucoup de vide, enfin un vide, pas complet puisqu'il y a de la matière interstellaire, mais il y a beaucoup de vide en quelque sorte entre les étoiles. Donc deux galaxies qui rentrent en collision, c'est un peu comme deux fantômes qui se traversent. Ça met la pagaille dans le monde des étoiles, complet, et en même temps le gaz qui se cogne, qui se frotte, qui se contracte, va donner naissance à plein d'étoiles. Autrement dit, quand deux galaxies se rentrent dedans, ça va vous faire un spectacle extraordinaire de deux voies lactées et en même temps une flambée de naissance de bébés. Donc si vous regardez, notez bien dans votre agenda ce phénomène, quand Andromède et notre galaxie vont entrer en collision, ça fera deux voies lactées dans le ciel et une flambée de naissance de petits bébés. Alors j'aime dire quand ceci va se passer, eh bien ceci va se passer dans un tout petit peu moins de 4 milliards d'années. Oui, on a le temps. Mais ces collisions de galaxies finalement conduisent à un phénomène pas très moral, un phénomène de cannibalisme galactique. C'est-à-dire que les grosses galaxies mangent les petites. Ça, c'est pas moral, mais c'est comme ça que ça se passe. Et dans le ciel, eh bien, ces galaxies se cognent mutuellement, les unes les autres. Les galaxies se mangent mutuellement et des trous noirs énormes apparaissent dans leur centre. Donc, vous voyez, trous noirs, fin de vie d'étoiles, trous noirs au centre des galaxies. Tout ceci nous conduit donc à un univers un peu triste tout de même, puisque trous noirs, ça veut dire plus de lumière dans le ciel. Un ciel parfaitement noir, avec plus d'étoiles. Mais, je vous l'ai déjà dit, ceci, nous pouvons attendre un nombre d'années égal à 10 suivi de 30 zéros, c'est-à-dire des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'années. Alors maintenant, nous savons tous que l'univers est en expansion. Nous savons tous que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et on s'est longtemps posé la question de savoir si cette expansion était indéfinie ou si, au contraire, cette grande expansion conduisait à un grand effondrement. Est-ce qu'avec le Big Bang, il y a un Big Crunch ou pas ? Alors, pendant de nombreuses années, je me souviens, j'enseignais aux étudiants que l'univers était en expansion, que les galaxies, qui représentent des masses considérables, je vous rappelle que notre galaxie contient environ 100 milliards de fois la masse du Soleil, c'est-à-dire environ 100 milliards d'étoiles, donc sont de masse considérable, et donc ces masses s'attirent mutuellement. Et donc, en gros, cette expansion doit être freinée par l'attraction mutuelle des objets qui composent l'univers. Et donc, nous pensions tous, dans les années 1970-1980, que l'expansion de l'univers était naturellement freinée par l'attraction mutuelle des galaxies les unes des autres. Et nous demandions à cette époque-là, est-ce que ce freinage est assez efficace pour qu'après la grande expansion, il y ait un grand effondrement, c'est-à-dire que tout ça va retomber sur l'univers va retomber sur lui-même, ou bien qu'au contraire, le freinage n'est pas assez efficace, l'expansion est ralentie, mais elle est indéfinie. Alors si vous prenez tous les polycopiers que j'ai publiés dans les années 1970, 80, 90, vous constaterez que je change d'avis tous les 5 ans en fonction des dernières nouvelles de l'époque. Et qu'il y a des périodes où l'univers s'effondrait sur lui-même, l'époque où l'univers est en expansion indéfinie. Et nous voyons donc deux futurs qui se dessinaient. Dans le premier, dans ce grand effondrement, on refaisait à l'envers l'expérience de l'expansion, c'est-à-dire que tout s'effondrait sur tout, que la température devenait colossale, que le rayonnement était énorme, que la matière disparaissait et que nous disparissions dans une espèce d'enfer incroyable. Et peut-être que ça conduisait à l'idée d'un univers pulsant avec une succession d'expansions et d'effondrements. Eh bien, cette approche, nous l'avons abandonnée. Parce que dans les années 1990, certains de nos collègues ont observé une supernova. Je vous rappelle qu'une supernova, c'est une étoile massive, en fin de vie, qui a explosé, et donc explosé. Et donc, nous connaissons bien les supernovae et la manière dont elles évoluent. Donc, nous savons, en regardant par exemple le spectre d'une étoile, enfin, en analysant sa lumière, que c'est une supernova de tel type. Alors, de temps en temps, c'est une étoile isolée qui est devenue trop grosse, qui a explosé. De temps en temps, ce sont deux étoiles qui rentrent en collision. Enfin, il y a différents types. Et donc, nous reconnaissons le type de l'objet. Et connaissant le type de l'objet, nous connaissons la quantité de lumière qui est émise. Nous reconnaissons la courbe de lumière, comment la lumière varie en fonction du temps. Et nous avons plein de caractéristiques. Autrement dit, c'est une manière d'avoir la distance de l'objet parce que, connaissant la lumière et la quantité de lumière émise dans cet objet de manière intrinsèque, connaissant pas avec un bon modèle, et mesurant la quantité de lumière qui arrive sur Terre, eh bien, ça vous permet d'analyser la lumière un peu comme quand vous roulez au volant d'une voiture la nuit, qu'une voiture arrive en sens inverse, eh bien, vous estimez si la voiture est loin ou pas, et donc si vous avez le temps de doubler la voiture qui est devant vous ou pas. Donc ça, on savait le faire. Eh bien, dans les années, fin des années 1990. Certains de nos collègues annoncent qu'ils ont trouvé une supernova d'un type bien connu, mais qu'elle n'est pas au bon endroit. Plus exactement, elle est au bon endroit, mais on n'a pas compris ce qui se passait. Autrement dit, tout se passait comme si cette étoile qui a explosé était plus loin que prévu. Alors au début, on a pensé que c'était dû à une mauvaise observation, une mauvaise interprétation, on a refait les mesures, d'autres équipes s'y sont mis. Et finalement, il a fallu se rendre à l'évidence. Cette explosion avait eu lieu plus loin que prévu. Et la seule manière de rendre compte du phénomène, c'est de comprendre que l'expansion de l'univers s'est accélérée. Autrement dit, contrairement à ce qu'on croyait, l'expansion de l'univers, elle ne se ralentit pas, elle s'accélère. Alors, ça, je vous avoue que moi, j'ai eu de la peine à l'admettre, cette idée. Et en tout cas, un des problèmes, c'est que pour accélérer l'expansion de l'univers, eh bien, il faut apporter de l'énergie. Mais l'énergie, l'univers, par définition, c'est tout. Donc, on ne peut pas avoir de l'énergie de l'extérieur, puisque l'univers, par définition, c'est tout. Donc, cette énergie, elle doit être à l'intérieur. Or, Einstein nous a appris, dans sa théorie de la relativité générale, que matière-énergie, c'est la même chose qu'une la matière d'une forme condensée d'énergie, en quelque sorte. Et donc, en gros, il y aurait dans l'univers une forme d'énergie totalement inconnue. Alors, comme elle est inconnue, on l'appelle énergie noire. Ceci n'a rien à voir avec le trou noir, avec la matière noire, avec la peinture noire. Mais simplement, le mot noir veut dire qu'on n'y comprend rien. Et donc, cette énergie noire expliquerait que l'expansion de l'univers s'accélère. Alors ça, dans une expansion de l'univers qui s'accélère, ça change tout sur le futur de l'univers. Ça veut dire que, en gros... D'abord, les objets deviennent si loin les uns les autres que la lumière n'a pas, la lumière, s'il en existe encore, n'aurait pas le temps de remonter, parce qu'à 300 000 km par seconde, eh bien, se forme une espèce d'horizon. Tout ce qui passe l'horizon n'est plus visible, un peu comme un bateau qui part vers New York, eh bien, vous pouvez disparaître la coque et puis le mât, et puis on ne le voit plus. On ne le voit plus non pas parce qu'il est loin, mais parce que la Terre est courbe. Eh bien, en gros, cette expansion indéfinie, cette expansion accélérée, pardon, de l'univers, conduirait finalement, in fine, à un univers complètement noir. Mais là, vous voyez combien on touche à la limite de nos connaissances. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons compris qu'une grande partie de la matière de l'univers est sous une forme non connue, qui s'appelle la matière noire, qu'on ne voit pas, qui n'émet pas de lumière, mais qui se traduit par ses effets gravitationnels, c'est-à-dire ce qui attire, ce qui passe au voisinage, etc. Et nous avons compris que 90% de la matière était sous forme de matière noire. Et quand on fait le bilan sur ce dont est composé l'univers, nous trouvons que pratiquement 70% est fait d'énergie noire, que pratiquement 26% est fait de matière noire. Je donne des chiffres très grossiers, mais ces chiffres ont été modifiés récemment, et qu'environ 4% est fait de matière ordinaire, c'est-à-dire en gros les atomes et les molécules dont nous sommes faits, qui composent notre environnement, les planètes, les étoiles, etc. Autrement dit, il y a beaucoup d'inconnus. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est la matière noire pour l'instant, nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'énergie noire pour l'instant, et même certains scientifiques, contredits par leurs collègues, mais ils existent tout de même, essaie de voir si en changeant un certain nombre de lois de la gravitation et de la physique, on ne pourrait pas se passer de l'existence de l'énergie noire ou de la matière noire. Autrement dit, voyez, le futur de l'univers, pour l'instant, dans l'état de nos connaissances, c'est le noir. Donc, c'est tout noir. Donc, si je voulais représenter un tableau pour représenter quel est notre futur, je mettrais un tableau noir sur fond noir dans un cadre noir, avec un grand point d'interrogation blanc au milieu, montrant l'étendue de nos méconnaissances. Alors maintenant, dans tout cela, vous voyez qu'il faut beaucoup de modestie, parce que revenons simplement 100 ans en arrière, voyons ce qu'à l'époque on prédisait, revenons 200 ans en arrière, revenons 300 ans en arrière, et voyons ce qu'on prédisait pour l'origine, le passé, le futur de l'univers. Ceci nous paraît maintenant presque un petit peu ridicule, et nous sommes... pratiquement dans la même situation maintenant, donc je ne saurais aller trop loin dans cette direction, d'autant plus qu'un fondement de la démarche scientifique, c'est cet aller-retour permanent qu'il y a entre d'une part la théorie, qui est une manière d'imaginer ce qui se passe, d'expliquer ce qui se passe, et l'observation, l'observation pour nous astronomes, ou l'observation pour les géophysiciens, ou l'expérience pour les physiciens ou pour les chimistes. C'est-à-dire qu'en gros, une expérience qui n'est pas interprétée n'a strictement aucun intérêt, mais qu'une théorie qui n'est pas vérifiée, soit par une observation, soit par une expérience, eh bien, ne saurait être acceptée sur le plan scientifique. Autrement dit, cet aller-retour permanent de la théorie de l'expérience, qui d'ailleurs est une vertu dont tout le monde peut profiter, c'est pour ça que je pense que la culture scientifique devrait être beaucoup plus répandue dans ce pays. Quand on parle en ce mot culture, on oublie que la culture scientifique en est une dimension. Eh bien, cette dimension n'existe pas sur le futur de l'univers. Donc nous pouvons spéculer, nous pouvons réfléchir, nous pouvons poser des idées, mais il faut toujours garder beaucoup de modestie, et j'ai toujours affirmé que deux des qualités essentielles d'un scientifique sont le doute et l'humilité. qualité que tous les êtres humains ne partagent pas, et que là aussi la culture scientifique peut nous apporter beaucoup de choses. Et essayons d'éviter les spéculations qui vont trop loin. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, certains rechignent à l'idée que l'univers puisse, avoir une fin. Et donc refusent cela. Donc inventent une physique parfaitement farfelue. Ils n'hésitent pas même à bousculer un peu les lois de physique, comme s'ils n'acceptaient pas cette idée de fin. D'autres imaginent que le but de l'univers est l'homme. C'est parfaitement ridicule. C'est retombé au Moyen-Âge où on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Je pense que l'univers se moque totalement de la vie. La vie n'est qu'un épiphénomène dans l'histoire de l'univers. Elle n'est pas très importante. Alors certains me disent, comment tu peux dire cela alors que l'homme est si important, etc. Mais je dirais, c'est au contraire une manière de se féliciter ce qu'est l'homme, c'est qu'avec un cerveau aussi primitif, résultat de l'évolution, qui nous sert simplement à nous reproduire, à échapper à nos prédateurs, à manger notre faim, qu'on ait compris autant de choses en aussi peu de temps, c'est extraordinaire. C'est au contraire un hommage rendu au cerveau humain qui a fait tellement de belles choses. Simplement, je crois qu'il faut garder cette modestie, ce doute, et au-delà de ça, garder cet enthousiasme qui fait que c'est une extraordinaire aventure, que l'aventure scientifique. Nous comprenons qu'elle ne fait que commencer. Et quand je vois tout ce qu'on a fait depuis 2000 ans, j'essaie d'imaginer ce qu'on trouvera dans les 2000 ans qui viennent. Et si on n'est pas assez fou pour se taper dessus, pour s'autodétruire ou pour s'exclure mutuellement, si on comprend, nous sommes tous sur le même bateau, que le fait de séparer la Terre en petits pointillés, en excluant l'autre, est vraiment ridicule, eh bien si on oublie tout cela, si on pense que la culture c'est l'essentiel, je pense que nous pourrons aller très loin. Et l'aventure scientifique nous en donne un bel exemple.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
C'était Dernières nouvelles de l'univers par André Brahic. À la technique, Bernard Laniel. À la réalisation, Angélique Thibault.
Ground's gonna